vous invite à vous tourner avec moi ce matin dans Néhémie. Si vous avez manqué des enseignements, sachez qu'ils sont disponibles en ligne. Je dis ça pour éviter de trop revenir en arrière à chaque fois. On sait que ce Néhémie était un échanson, quelqu'un qui avait une place importante auprès du roi Artaxerxès, l'empereur de Perse, et que Dieu peut motiver les dirigeants du monde. Néhémie avait prié pendant 4 mois pour que Dieu lui ouvre des portes. Et quand la porte s'entrouvre, lorsque le roi lui demande pourquoi il a l'air malade, pourquoi il a l'air triste, Néhémie, qui est un homme de prière, envoie une prière très courte et il explique en fait c'est la situation de Jérusalem, la ville de ses ancêtres, qui est détruite. Les murailles sont effondrées, les portes sont brûlées. Le roi lui demande « Mais qu'est-ce que tu me demandes ?» Et là, Néhémie saisit l'opportunité. Il avait prié pour une opportunité. L'opportunité se présente. Il continue de prier avant de parler, mais il va aller jusqu'au bout de l'opportunité. Et il va demander non seulement au roi de le laisser partir, mais aussi de lui donner des lettres de créance, le faire en sorte qu'il était pratiquement le roi de le gouverneur de la province de Jérusalem, de Juda. Et il lui demande aussi des ressources pour bâtir la muraille. Et le roi est là, il signe l'échec, pas de problème. Ça aussi, c'est dans notre situation présente, c'est aussi quelque chose que peut-être on n'a pas fait assez, c'est de prier, de jeûner pour que Dieu intervienne dans ce débat, dans cette loi qui est comme une espèce de distraction sur les vrais problèmes. Ça concerne quelques milliers de personnes peut-être et on ne les méprise pas, loin de là, alors qu'il y a des problèmes qui concernent des millions de personnes en France. Et on va voir que Néhémie se révèle être un grand leader. Nous aurions besoin de grands leaders. Et en ce moment, en France, je crois qu'il y a une absence de tous les côtés, malheureusement, de personnes solides qui aient une vision pour le pays, une vision ouverte, qui ne soit pas gouvernée par des décades d'idéologie d'un côté comme de l'autre. Le roi accède aux demandes de Néhémie. Et Néhémie est toujours prêt à reconnaître que tout ce qu'il a réussi à faire, c'est pas ça, grâce à ses qualités, grâce à ses ressources personnelles. Il remet toujours l'adoration, la gloire, là où elle est due, c'est-à-dire sur Dieu. On va voir cette phrase qui était déjà dans Esdras, qui revient comme un leitmotiv, comme une répétition. Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je crois que c'est très important d'avoir ce sentiment que lorsque vous faites des choses qui marchent, c'est pas grâce à mes qualités intrinsèques, mais c'est que la main de Dieu est sur nous. Et si Dieu, la main de Dieu est sur nous, qui pourra nous arrêter? Qui pourra? C'est l'histoire de Néhémie. Et ça devrait être notre histoire aussi. Il est allé donc, vous souvenez, Esdras avait refusé la protection militaire du roi de Perse en disant « ça l'afficherait mal, j'ai dit que j'avais confiance en Dieu, si maintenant je lui demande qu'il m'envoie des troupes ». Mais là, du fait qu'il est envoyé comme le gouverneur de Judée, Le roi lui donne une petite armée. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée, par des cavaliers. Et puis il y avait l'opposition qui va revenir comme un leitmotiv. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, il va y avoir de l'opposition. Et quelque part, c'est un test de savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu ou si ce que vous faites compte pour le royaume de Dieu. Si tout marche facilement, sans effort, avec des grands résultats, demandez-vous si ce que vous faites est vraiment selon Dieu. Parce que nous avons un ennemi, une réalité. Le combat spirituel, mes amis, c'est une réalité. C'est pas une façon jolie d'expliquer le combat du bien et du mal. Il y a un adversaire qui est aussi réel que ce pupitre, qui ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Il veut que tous les hommes viennent pour l'adorer, pour le suivre, et ceux qui le suivent vont aller jusqu'à l'endroit où il est destiné à aller par la parole, par Dieu, l'enfer. L'enfer n'est pas destiné aux hommes. Il est destiné à Satan, à ses démons, et à ceux qui s'intéressent et qui continuent à le suivre, c'est-à-dire qui rejettent sa volonté, qui rejettent la parole, qui rejettent les principes bibliques clairement établi, sur lequel notre civilisation du monde occidental est bâtie. Et maintenant que le monde occidental a eu ce bénéfice de l'évangile et du christianisme, elle l'abandonne. Heureusement, Dieu est à l'œuvre et c'est dans d'autres continents, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, que l'évangile est en train de se développer avec un zèle, une ardeur des chrétiens qui est belle à voir et qui fait plaisir à Dieu. Mais je veux croire que Dieu n'en a pas fini avec l'Europe, Dieu n'en a pas fini avec la France, avec la Suisse et d'autres pays. Dieu est à l'œuvre. Et tout ce qu'il cherche, c'est pas des gens super doués, c'est des gens humbles qui soient disponibles et qui soient prêts à s'engager pour lui. Et j'avais dit à la fin du chapitre, plutôt au verset 10, qu'il y a cette opposition qui n'a pas d'autre raison que parce que quelqu'un était venu pour le bien des fils d'Israël. Il y a cette opposition aux Juifs, à Israël, qui est inspiré par Satan et qui continue malheureusement encore aujourd'hui. Je vous renvoie à l'enseignement de la semaine dernière. On va lire ensemble les versets 11 à 20. Je lis dans la version La Colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, encore une fois, vous pouvez lever la main et on vous en amènera une. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que l'animal que je montais, un cheval ou une mule, probablement. Je sortis de nuit par la porte de la vallée dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source, près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montai de nuit par le ravin et j'inspectai la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambalat, le Ronite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Je vous ai rappelé qu'en fait, le livre de Néhémie, c'est un livre, bien sûr, qui a une portée spirituelle évidente. On voit comment Néhémie est un homme de prière qui cherche à faire la volonté de Dieu, comment Dieu l'envoie et pourvoit. On a dit que c'était un grand principe. Là, où Dieu envoie ses enfants, il va pourvoir à leurs besoins et aux besoins du ministère. On le voit qui, et donc on va voir qu'il y a, à côté de cette dimension spirituelle, il y a même une dimension pratique dans le sens de, on peut trouver des principes pour bien diriger, que ce soit une entreprise, une église, un groupe, un parti politique, quel que soit le genre d'organisation dans laquelle vous êtes impliqué, il y a des principes à retenir dans votre entreprise, dans votre école. Et on va essayer de souligner à chaque fois ces choses-là parce que c'est très riche de ce point de vue. Et encore une fois, ça montre la richesse de la parole de Dieu. C'est pas un joli conte avec des jolies allégories, c'est quelque chose, la Bible, c'est un texte envoyé par Dieu, communiqué par Dieu, qui parle de tous les aspects de notre vie ici-bas et de notre vie éternelle. Quand on vient vers la parole de Dieu, il faut venir avec cette attente, avec ce respect et cette attente joyeuse de choses qui vont me faire du bien, qui vont me réconforter, qui vont m'encourager, qui vont me préparer à toute œuvre bonne. Ça, c'est, on l'avait vu, Dieu nous prépare, et souvent, la semaine dernière, juste un petit retour, c'est par l'attente que l'on fait l'expérience de sa volonté. Nous sommes des gens impatients, mais Dieu, il prend son temps et il nous fait attendre, pas pour nous embêter, pas pour faire monter la tension artérielle, pour nous stresser, mais pour nous former. Il veut d'abord que, dans ces temps d'attente, on aille vers la prière, on aille à lui par la prière. Ces temps d'attente, il nous permet de recevoir une vision. Il nous permet de mettre en pratique plutôt d'imaginer comment cette vision pourrait prendre forme. Donc c'est un temps qui nous permet de planifier les choses. Et puis on avait vu un autre aspect qui souvent nous échappe, c'est qu'en fait Dieu, il a son agenda. Il a son propre calendrier. Et il attend les moments propices à l'accomplissement de ces prophéties. On a vu comment cette autorisation de reconstruire les murailles de Jérusalem, ça a participé à la plus grande des prophéties sur les prophéties de Daniel 9, qui parle de la fin des temps. Donc des fois on se dit, mais comment ça se fait que j'attends? Et en fait Dieu est là, une seconde mon fils, je suis en train de travailler, de mettre en œuvre des prophéties à l'échelle de l'humanité, de son histoire, de son futur. Tu permets, tu peux me laisser faire pendant quelques minutes ou quelques jours ou quelques années. Dieu nous prépare et ce temps d'attente, c'est aussi un temps où il peut œuvrer pour que les choses, les portes s'ouvrent. J'avais rappelé que pendant longtemps, on avait cherché un local et on était découragés, au point où on demandait même plus la prière aux personnes et aux églises qui nous soutenaient, parce qu'à chaque fois, on devait leur dire en fait, ben, ce local qu'on regardait, ça n'a pas marché. On a essuyé un refus. On se disait, peut-être qu'ils vont penser que Dieu n'est pas avec nous. En fait, Dieu était avec nous parce qu'il a permis que ce local se libère et que nous puissions entrer dans ce local. Alors c'est pas, mais c'est dans ce genre d'expérience, et c'est souvent au passé qu'on voit, on réalise. Quand on est le nez sur le guidon, dans l'épreuve, dans le brouillard, on n'a pas l'impression d'être guidé, mais c'est là où il faut avoir cette relation personnelle forte avec Dieu. Reprenons ces quelques lignes. Il arrive à Jérusalem, c'est vite dit, en fait ça a pris probablement 2 ou 3 mois, un voyage périlleux, alors c'est vrai qu'il avait des troupes avec lui, un voyage fatigant, mais ce qui compte c'est pas tant le voyage pour lui, c'est le fait qu'il est maintenant à Jérusalem. Et là, il va passer 3 jours sans rien faire, entre guillemets. Trop souvent, nous avons l'impression que lorsque nous prions, nous ne faisons rien. Alors, c'est vrai que extérieurement, on ne voit pas de résultat tout de suite, on ne voit pas d'activité, on ne voit pas de mouvement. Mais la prière est tellement importante. Parce que la prière, elle va mettre en mouvement la main de Dieu, ou elle va nous permettre d'aller, de faire du mouvement dans le sens voulu par Dieu. Et donc, il prend 3 jours, juste lui et le Seigneur. Il n'y a pas de détails, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on peut imaginer qu'il cherche à passer du temps avec Dieu. Quand j'ai le privilège d'exposer la parole, sachez que la parole, il est dit, c'est une âme à double tranchant. Donc ça peut vous couper, mais elle me coupe aussi. Elle me fait mal. Et ce que je veux dire, c'est que je ne passe pas assez de temps seul avec Dieu. Nous vivons dans une société, et je suis connu pour être un fan de nouvelles technologies, entre guillemets, pas un grand fan, mais je suis sur Facebook, sur YouTube, sur etc. Et tout ça, c'est du temps où on n'est pas seul avec Dieu. Et comment reconnaître la voix du maître si on n'apprend pas à l'écouter dans la solitude? Et quand on regarde en arrière, je me souviens, lorsque j'avais des décisions à prendre dans le passé, de partir avec la guitare, un sac à dos, partir sur la colline à Nice et passer du temps avec Dieu. Souvent, c'est l'ennemi est là qui veut nous frustrer. On arrive à la fin de la journée, on a lu des textes, on a chanté des chants. Il n'y a pas besoin de la guitare pour chanter. On a prié. Et peut-être qu'on a le sentiment qu'en fait, on a fait ça sans que Dieu vienne nous rencontrer. Mais il faut savoir que Dieu, c'est la chose qu'il attend de nous tous. C'est qu'on vienne à lui, comme un bon père. J'ai deux garçons et je sais que une de mes joies dans la vie, c'est de pouvoir passer du temps en tête à tête avec mes enfants lorsqu'ils peuvent me parler. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut cultiver de la part du papa, mais de la part des enfants aussi. Et là, le père, comme le père du fils prodigue, il est toujours là. Contrairement aux pères humains ou aux pères que je suis. Il est toujours là à attendre ses enfants. Son plaisir dans la vie, c'est la communion avec ses enfants. Mais on est trop, et je suis trop occupé. J'ai trop de choses à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à prendre une demi-journée et aller seul, sans les copains, sans les copines, sans votre mari, sans votre femme. À essayer de rencontrer Dieu. Et Dieu va vous parler. Vous aurez le sentiment que rien ne s'est passé, peut-être. Mais je vois, en regardant en arrière, que Dieu était là. Des fois, c'est évident et on est émerveillé, on peut avoir des émotions, des larmes, un grand sentiment de la présence de Dieu, de joie. Et puis d'autres fois, mais sachez que Dieu est là, que Dieu veut vous parler, Dieu veut vous diriger. Et là encore, il peut donner l'impression de ne pas être là pour vous faire attendre. Peut-être que pour que vous reveniez la semaine d'après. Mais Néhémie, c'est un grand leader, c'est un grand dirigeant, parce que justement, il cultivait cette relation étroite avec Dieu. Il décide, la nuit, prend quelques hommes avec lui. Ça, c'est de la sagesse, c'est pour pas que tout le monde soit au courant de ce qu'il, quels sont ses projets. Il avait exprimé ses projets à l'empereur, au roi de Perse, mais il savait qu'il allait avoir de l'opposition sur place, et il préfère sagement ne pas donner l'occasion à ses ennemis de savoir exactement quels sont ses projets. Donc il va partir pendant la nuit. Sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il part sur sa mule ou son cheval, et puis il entreprend de faire une enquête ou une investigation, de faire le point sur la situation réelle. Parce que souvenez-vous, il est parti parce que son frère, Hanani, c'était au chapitre 1, verset 2, son frère de sang lui avait rapporté ce qui se passait. Et c'est ce qui l'a touché son cœur et qui lui a donné le désir d'être utilisé par Dieu pour faire quelque chose pour cette situation. S'il a poussé à prier pendant et à jeûner pendant 4 mois, entre le mois de Kislev du chapitre 1 et le mois de Nissan du chapitre 2. Il a ce désir de faire quelque chose, mais il s'en remet à Dieu dans la prière, et il veut voir par lui-même la situation réelle des choses. Et donc il va faire la tournée des portes de la ville. Et là, c'est intéressant parce que les portes de Jérusalem, on peut, quand on y va aujourd'hui, en voir certaines. Vous savez que il y a eu des destructions en l'an 70, il y a eu des... Mais on peut encore se repérer. En fait, ce qu'il fait, c'est un tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il part de la porte de la vallée, et puis il fait le tour et il inspecte. Il regarde ce qui s'est vraiment passé. Il voit les portes dévorées par le feu, il voit les murailles, il fait un peu le bilan. Et ça aussi, c'est ce que le Nouveau Testament nous invite à faire lorsqu'on s'engage dans une œuvre, c'est de compter le coût, de faire une estimation du travail qu'il y a à faire, des difficultés qui vont se présenter. La foi en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On lui fait confiance, on lui demande de nous guider, mais en même temps, il nous a donné des outils, des éléments pour apprécier les situations, pour avoir une meilleure connaissance de la situation réelle. Et ça, c'est très, très fondamental quand on se lance dans quelque chose. Et en fait, maintenant, c'est la première fois qu'il voit de ses propres yeux la situation, le dommage qui a été infligé à la ville. C'est la première fois qu'il vient à Jérusalem, il faut se le rappeler. Et il décrit quelques portes par lesquelles il passe. La destruction est telle qu'il y a des endroits où il ne peut pas passer avec son cheval ou sa mule. Et puis, il revient. Il a fait cette enquête avec sagesse. Il est sûr de ce qui se passe maintenant. Et ça s'applique à tous les domaines. C'est ce qu'on devrait attendre d'un leader politique. J'ai noté une citation d'un pasteur chrétien américain qui disait « Le chef ne doit pas vivre dans un monde de rêves. Il doit faire front honnêtement aux faits. Il doit accepter les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles. » En politique aussi. Quand on a des dirigeants qui viennent vous dire « je ne savais pas », il y a problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de prier 3 jours et d'inspecter eux-mêmes les choses. Ils sont partis avec des idées préconçues qu'il n'y avait pas de problème, que c'était du baratin. Un vrai leader va faire le point. Peut-être vous vous dites, mais en fait, c'est bien beau tout ça, Pierre, mais moi, je n'aspire pas à être président de la République, ni député, ni pasteur, ni chef d'entreprise, ni responsable syndical. Que vous le vouliez ou non, vous avez des responsabilités. Si vous êtes une maman, vous avez des enfants dont il faut vous occuper. Et vous allez être un responsable pour d'autres, que vous le vouliez ou non, encore une fois. Et donc, il est important de faire l'analyse des situations. Je viens de voir un petit mot de Michel Harris, qui était avec le GBU, avec la femme de Scott. Ils ont adopté 2 enfants qui sont totalement différents. Un est très brillant, Justin, et la petite Anna, qui est adorable, elle réussit pas du tout à l'école. C'est pas son truc. Et sa maman faisait un petit blog dans lequel elle disait que c'était difficile parce que d'un côté, il y avait son fils qui était avec les meilleurs de la classe. Il était facile d'aller voir les parents, de parler de leur réussite, de voir comment ils pouvaient les orienter, quelle formation dans le futur faire, etc. Et puis, il y avait aussi, mais elle, quand elle revenait à la maison, elle avait un garçon comme ça, mais elle avait aussi une petite fille qui marchait pas du tout à l'école. Et qu'elle devait donc encourager la petite fille pour le moindre progrès qu'elle faisait. Et je pensais, en fait, c'est une maman qui a fait le point sur la réalité des choses. Elle a un enfant doué pour l'école et un enfant qui n'est pas doué du tout pour l'école. Et ça va guider la façon dont elle élève ses enfants. Donc, faire le point de ce qui se passe autour de vous lorsque vous avez une responsabilité d'influencer les choses, c'est essentiel. Sinon, on fait n'importe quoi. On applique toujours la même politique, on applique toujours la même éducation. Alors que la Bible nous dit d'étudier chaque enfant et de l'enseigner selon sa propre nature. Nous avons eu que 2 enfants, mais ils sont très différents. Si vous avez plus de 2 enfants, et vous savez que aucun n'est pareil. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être connectés et de prier ensemble, le mardi à midi. Petite pub pour Maman en contact. Il inspecte, c'est la première étape, après toujours dans la prière. Hein. La prière, encore une fois, c'est quelque chose qui le nourrit, qui le dirige. Il faut baigner dans la prière. À chaque instant de chaque jour, « Oh, combien j'ai besoin de toi, Seigneur !» On a un chant qu'on aime bien chanter. À chaque instant, chaque moment, j'ai besoin de toi, Seigneur. Après cette inspection, un bon leader va s'attacher à obtenir la coopération des autres. Un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui sait motiver les autres pour tout faire. Et vous pouvez faire le travail de 10 personnes ou être une personne qui met au travail 10 personnes. Et ça prend du temps. Il y a souvent des moments où on se dit j'aurais plus vite fait de le faire moi-même. Mais c'est compromettre le futur de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Parce que d'une part, vous n'êtes pas garanti d'être là demain. Et d'autre part, vous allez vous essouffler et vous allez accomplir bien moins de choses que si vous arrivez à mettre les autres au travail. Prier pour moi, c'est un domaine où je ne me sens pas du tout doué. De motiver les autres pour bosser. Mon fils Tonio est, je crois, beaucoup plus doué dans ce domaine. Et c'est important. Il n'est pas là, je crois, donc ça va. Faire le travail par les autres. Pas pour vous défausser, pas pour ne pas le faire, mais parce que vous allez leur donner aussi la possibilité de grandir, la possibilité d'être enthousiaste, de participer eux aussi au travail, à l'entreprise que vous faites. Il dit, verset 16, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Au début, ils leur avaient rien dit, ou ce que je faisais. Je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. » Donc pour l'instant, il ne leur avait rien dit, mais maintenant il va faire de la com, comme on dit maintenant en politique. Il va leur expliquer son projet et il va les faire participer à son projet. Il va les motiver à faire ce qui doit être fait. Et l'art d'un bon dirigeant, c'est de vous faire faire les choses en vous donnant l'impression, qui n'est pas vraiment une fausse impression, mais que c'est exactement les choses que vous voulez faire. Parce que vous montrez aux autres le chemin et vous leur montrez une façon d'accéder au but qu'ils voudraient eux aussi atteindre. Et verset 17, « Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. » Il ne leur dit pas, encore une fois, mais qu'est-ce que vous avez fichu? Ça fait près de 100 ans que vous avez commencé à retourner. Regardez la situation, c'est un scandale. C'est facile à faire ça, pointer la responsabilité sur les autres. Mais là, il va pas les froisser de la sorte parce qu'il va dire, vous voyez le malheur où nous sommes. Il s'identifie aux personnes qui sont là. Dans votre entreprise, dans votre groupe de maison, ne dites pas « vous », mais « nous ». Parce que la réalité des choses est ce que nous sommes ensemble. Lorsque l'Église faillit à sa mission de proclamer la vérité dans notre pays, c'est pas les autres, c'est nous. C'est nous tous les chrétiens. Et il leur dit, Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Et là, il les motive. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur, nous ne serons plus dans l'opprobre. Il pourrait... il aurait pu, c'est vrai, les critiquer, leur dire c'est un scandale, voilà ce qu'il va falloir faire, voilà ce que vous devez faire maintenant parce que vous n'avez rien fait pendant toutes ces années, presque 100 ans, pour ceux qui étaient rentrés les plus tôt, mais il fait preuve d'une grande sagesse. Il fait appel à leur honneur, à leur honte. Il va contrecarrer, ce faisant, des choses qui sont pas dites, mais qui devaient être dans leur tête. Peut-être pensait-il qu'il n'y avait pas besoin de reconstruire les murailles, parce que ça faisait justement si longtemps et qu'ils étaient toujours là, qu'ils avaient reconstruit le temple. Alléluia, on a un petit temple et c'est chouette. Ou peut-être il se disait, c'est impossible, c'est trop de travail. On n'a pas les machines pour bouger les pierres et tout ça. Ou alors ils auraient pu penser ou dire entre eux, l'ennemi est trop puissant, l'ennemi est trop nombreux. La loi est déjà passée. Pas possible. Maintenant, on est bien coincé. Ils auraient pu se dire toutes ces choses. Et sans doute, c'était la raison pour laquelle ils ne faisaient rien. Mais en faisant appel à leur honneur, il va leur donner une motivation interne, personnelle. Et ça, c'est ce qui va vous faire avancer. Il faut que le moteur y soit à l'intérieur. On peut être tiré pendant un certain temps par quelque chose d'autre. Et c'est là la force du christianisme, c'est qu'elle change le cœur des hommes. Ce n'est pas un grand parti politique qui impose la doctrine de Mao Tse-tung. C'est Jésus à l'œuvre dans chacun des cœurs, qui a écrit sa loi sur vos cœurs et vous êtes motivés pour son honneur et pour faire avancer son royaume. Pour éliminer ces craintes qu'il devait avoir à bouger, à se faire remarquer, à travailler, il leur rappelle que Dieu est avec eux. Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous le chantons à tue-tête. Et puis, si Dieu est... Mais dans la réalité, est-ce qu'on a la même conviction ou est-ce qu'on se dit, ben, maintenant c'est trop tard ou l'opposition est trop forte? Ils sont motivés parce qu'il leur dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Debout, debout, homme de Dieu, faites fi des choses vaines. C'est un chant que j'aime bien, ça. Debout. Pendant les manifestations, on chante un pacifique, encore une fois. Il y a un chant un peu guerrier, c'est mon chant préféré. C'est le chant des partisans. C'était le chant qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce chant nous dit de nous lever, camarades, d'aller sortir les fusils de sous la paille, de chercher la mitraille. Alors c'est un peu cocasse parce que c'est des paroles très guerrières. Il y a toujours des policiers qui sont là, des CRS qui surveillent la manifestation. Le plus souvent à Nice, en fait, ils nous protègent des opposants. Il faut savoir aussi que tout le monde n'est pas pour la loi, même dans la police. Je parlais avec un gars des renseignements généraux qui disait « Je suis inquiet pour le monde que je vais laisser à ma fille. » Mais on l'entend sur Antenne 2, c'est bien. C'est le mouvement, c'est le progrès. Allons-y, allons-y. On se fait tromper. Et ce qui compte, c'est la motivation intérieure. Il ne s'agit pas d'aller mitrailler ces gens. Mais il s'agit de se lever et d'avoir le courage de ses opinions. Et on peut très bien dire, je n'ai rien contre les homosexuels, mais je ne veux pas que l'homosexualité soit encouragée ou reconnue comme un autre style de vie légitime. Parce que la Bible dit que c'est une abomination. Attention, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui dit ça. Il suffit de lire Romains. On va parler Romains 1. Je ne vais pas faire une digression. Mais ils ont cette conviction, ils vont se lever pour bâtir. Et les grands, vous savez que vous êtes un grand dirigeant si, quand vous dites quelque chose, les gens vous suivent. Et ce qui est merveilleux, et c'est là qu'on voit que Néhémie était un bon dirigeant, un bon leader, c'est que les gens le suivent. Il a su parler à leur cœur et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, verset 18. Un bon leader, c'est aussi s'occuper de l'opposition. Il y a notre fameux trio, Sambalat, Tobia, Geshem, un Horonite, un Ammonite et un Arabe, qui vont essayer de décourager les disciples de Néhémie, ou les corélégionnaires, les administrés de Néhémie. Et l'ennemi n'a pas tellement d'imagination. Il utilise toujours les mêmes ruses. C'est pour ça que Paul nous disait « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance des ruses de l'ennemi. » Parce qu'il y en a quelques-unes, et une fois qu'on les connaît et qu'on est alerte et qu'on est prêt à discerner les choses, on le voit venir avec ses gros sabots. Là, pour décourager les enfants de Dieu, il va utiliser les gros sabots des guignols. Il va utiliser la moquerie. Il va utiliser le mépris. Ils entendent parler de ses projets. Vous vous souvenez, ils sont contre tout ce qui peut faire le bien d'Israël. Et ils vont commencer par rire d'eux. Vous voulez recommencer à reconstruire la muraille, mais ça va pas la tête, vous voyez. Il y en a qui ont fait des cours de menuiserie ou des cours de charpente ou des cours de maçonnerie. Ridicule! Vous voulez vous opposer au progrès social en marche dans le monde? Vous êtes ridicule. Vous êtes à contre-courant. Alléluia. Que faites-vous là? Après se moquer, c'est le mépris. D'abord, on fait des petites vannes, et puis après, on a un mépris profond pour eux. J'ai toujours aimé de... Quelque part, on aime souffrir pour le Seigneur parce qu'on se dit que si on souffre pour le Seigneur, c'est qu'on fait la volonté du Seigneur, avec ce principe d'opposition. Et avec James et d'autres, des jeunes de l'Ariane, souvent on va faire un stand devant la fac. Et je me souviens de cette fois où il y avait un type, un étudiant, un gars, qui était passé, qui avait regardé un peu les livres. Il y a des bibles et des livres chrétiens, des traités qu'on donne gratuitement. Et il nous a regardé l'air complètement étonné, il a dit « Vous croyez encore à ces trucs-là ?»« Ben oui, la Bible est la vérité, la parole de Dieu. » Et là, il nous a insultés. Bande de... « J'en crois pas. à mes oreilles, vous êtes des... etc. D'abord, il s'était moqué, ensuite, il nous a méprisés. Et on était là, alléluia, on est méprisé pour le Seigneur. Et puis, s'il voit que les guignols, ça ne suffit pas, il faut venir les CRS. Que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Vous êtes contre la loi démocratique républicaine. Waouh! En prison tous cela. Enlevez-moi tout ça. Enlevez-moi ces adversaires de la démocratie. Ça a été dit par le président de l'Assemblée nationale. Alors, je justifie pas toutes les façons d'intervenir qui peuvent être mauvaises, maladroites, récupérées par des casseurs, etc. Mais ils essayent de leur faire peur. D'abord, ils se moquent et après, ils menacent. Et ça, dans toute entreprise, vous allez le faire, surtout lorsque c'est une entreprise spirituelle. Lorsque vous voulez faire implanter des églises. Il va y avoir les règlements. Il va y avoir les règlements que personne ne peut expliquer parce que personne n'a l'habitude de travailler avec des églises évangéliques. Et verset 20, il nous donne la façon de répondre à ces menaces, à ces mépris, à ces... Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu va nous... C'est lui qui va avoir le dernier mot. C'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le président, c'est pas un nouveau gouvernement qui changerait les lois, c'est Dieu qui va donner le succès. Et il leur dit, je me moque de ce que vous pensez, nous savons que nous sommes inspirés par Dieu, Dieu nous conduit à faire ce que nous faisons, et nous sommes ses serviteurs. Néhémie ne dit pas « Je suis le chef qui vient reconstruire la ville et je vais gagner ». Il dit « Nous sommes les serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons ». Est-ce que vous avez envie de vous lever, de vous battre pour établir le royaume de Dieu en France, en Europe, dans le monde? Et il leur dit « Vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem ». Il leur dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi le mariage? Vous vivez en concubinage notoire les uns les autres. Là, il parle du passé. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est dans le passé. Ni part, il n'y a rien pour vous dans le futur avec Dieu. Et maintenant, il n'y a ni droit pour l'instant. Nous, on travaille pour Dieu et vous ne faites rien pour lui. On sait qui va gagner. Il ne cherche pas à répliquer argument par argument. On peut perdre beaucoup de temps. On peut perdre beaucoup d'énergie et passer à côté de la plaque lorsqu'on essaye de réfuter les opposants, ceux qui nous critiquent dans nos décisions, point par point. Ce qui compte, c'est de passer du temps avec Dieu pour que Dieu vous donne la conviction que la direction que vous prenez est celle qu'il veut que vous preniez. Et donc, il se conduit sagement et on va voir comme cette méthode va vraiment lui réussir. Les adversaires, on y reviendra, mais il y en avait qui étaient en fait connectés. Sambalat, par exemple, on pense qu'il avait épousé quelqu'un de la famille du grand prêtre. On verra ça dans Néhémie 13. Et l'opposition, c'est toujours difficile, surtout lorsque ça vient entre guillemets de frères. Mais une fois encore, il faut toujours savoir que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Paul nous l'explique si bien dans Éphésiens 6, 10, 12. Nous combattons contre les forces du mal dans les lieux célestes. Mais ces attaques célestes, elles se manifestent à travers des hommes, bien sûr, et des situations. Ils se moquaient de Dieu, et Néhémie, qui était convaincu de faire la volonté de Dieu, avait la paix, et on va voir qu'il va avoir le succès dans ce qu'il va faire. Ils ont commencé par enquêter, investiguer, faire une investigation. Il a suscité la coopération. Et puis, parce qu'il est appelé par Dieu, il y a la détermination. Et ça, c'est trois éléments essentiels dans toute entreprise, que ce soit une entreprise spirituelle ou même pour lancer une entreprise, lancer un groupe de maison, lancer une action qui utilise d'autres personnes qu'une seule personne. On pourrait multiplier les exemples ou les analyses. Je vais juste, en m'inspirant d'une liste, qui définit les caractéristiques nécessaires pour être un bon leader, pour être un leader qui a des résultats. Tout d'abord, il avait établi pour lui-même un but raisonnable et qu'il pouvait atteindre, même si c'était un but ambitieux, reconstruire des murailles avec l'aide de Dieu, avec l'aide des souverains que Dieu orienté pour lui, c'était quelque chose. Il avait deuxièmement un sens de mission. Est-ce que vous faites les choses, vous voulez monter votre entreprise parce que vous croyez à votre produit ou simplement parce qu'il faut bien vivre et vous voulez pas avoir un patron au-dessus de vous? Il était prêt à s'impliquer personnellement. Quatrièmement, il a arrangé ses priorités en vue de ce but. Il a attendu. Cinquièmement, le temps de Dieu. Un point important, le sixième point, c'est qu'il a montré du respect envers ses supérieurs. Il y a des autorités qui sont en place. Si elles sont là, c'est que Dieu a permis qu'elles soient là. Et il a montré du respect envers le roi Artaxerxès, qu'il a en retour couvert de bienfaits. Il a prié à des moments cruciaux, mais il avait toujours cette attitude de prière. Ça, on aurait pu le mettre en premier point, même historiquement. Ses demandes, il les a faites avec du tact et gracieusement. On avait vu la semaine dernière qu'il avait utilisé le mode de la question pour informer le roi du problème de Jérusalem. Comment est-ce que je serai patrice avec tout ce qui se passe à Jérusalem ? Au lieu de dire c'est un scandale, vous avez permis que Jérusalem, la ville de mes ancêtres, soit détruite. Il s'était bien préparé. On a vu dans la prière, dans sa requête auprès du roi, qu'il savait exactement ce qui allait lui être nécessaire. Il a pris du temps aussi pour se reposer après son voyage, pour prier, pour faire un plan. On a vu, point 12, qu'il avait bien enquêté par lui-même pour être au point de la situation réelle. Il a informé les autres seulement après avoir obtenu lui-même une compréhension du problème, la taille du problème. Un autre point, il s'est identifié avec les gens. Et il a mis devant eux un but qui soit raisonnable et qu'ils puissent atteindre. le but que Dieu lui avait donné, le but qu'il s'était fixé de faire quelque chose pour Jérusalem, il avait été à même de le transmettre aux autres. Pour cela, il avait, point 16, il avait assuré que Dieu était avec lui, Dieu était avec eux. Il a été plein de confiance pour s'opposer aux obstacles. Parce que il n'a pas montré de la confiance en lui-même, mais de la confiance en Dieu. Un autre point, il ne s'est pas disputé, il n'a pas discuté point par point avec les opposants. Et un dernier point, c'est qu'il a utilisé courageusement l'autorité qui lui avait été conférée par Dieu et par l'intermédiaire du roi Artaxerxès. Il était celui qui était venu pour rebâtir. Il n'allait pas se laisser détourner du projet par des opposants qui se moquaient de lui, qui le méprisaient, qui voulaient lui faire peur. Dieu veut nous parler aussi parce que nous avons tous des problèmes de murailles. La muraille autour de mon cœur, la muraille autour de ma famille. Dieu vient me demander, il vient faire l'enquête, il me dit « Où tu en es, toi ?» Et Dieu veut vous demander « Où tu en es, toi ? » Est-ce que ta muraille de protection contre le mal, contre le monde, elle est solide ou il y a des endroits où elle est brûlée ? Dieu veut susciter de notre part la coopération. On peut dire « Oui, oui Seigneur, j'ai vraiment laissé cet aspect de ma vie spirituelle tomber, je ne suis pas au point. » Et Dieu veut vous communiquer de la détermination. Il veut savoir qu'il est avec vous, que sa bonne main est sur vous pour vous aider à reconstruire ces murailles dans votre vie. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, que nous pouvons bâtir nos vies sur elle. Seigneur, puisse notre monde occidental revenir à ta parole, Seigneur. En attendant, tu veux, avant que nous allions rebâtir les murailles de ton Église dans ce continent, Seigneur, tu veux reconstruire nos propres murailles. Quelqu'un qui ne contrôle pas son cœur, il est dit dans la parole, est comme une cité sans murailles. N'importe quoi peut la faire partir d'un côté ou d'un autre. Seigneur, nous te laissons nous examiner. Montre-nous, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, de nous donner l'espoir que tu, avec ton aide, nous pouvons restaurer ces choses dans notre vie, Seigneur. Nous pouvons rebâtir. Seigneur, merci parce que tu nous donnes confiance. Tu nous dis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je donnerai du repos car mon fardeau est léger et mon joug est aisé. Seigneur, aide-nous tous ce matin à revenir à toi pour que tu puisses rebâtir les murailles comme tu as permis à Néhémie de les rebâtir. Merci pour la richesse de ces textes, Seigneur. D'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue encore plus fort, plus spirituel pour chacun de nous. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Pendant que nous prions et nous avons les yeux fermés, s'il y en a certains qui veulent demander l'aide du Seigneur pour rebâtir des murailles dans leur propre vie, je vous demanderai simplement, là où vous êtes, sans faire de bruit, de lever la main pour signifier et pour prendre l'engagement devant Dieu de faire ce travail de rebâtir. Merci Seigneur pour ces quelques personnes qui sont là. Et Seigneur, je m'associe aussi. Viens rebâtir nos murailles, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, dans l'Église. Merci pour ton amour, pour ta protection. Merci parce que ta bonne main, tu l'as mise sur nous, Seigneur. Sois glorifié. Amen.